One, two, sen çek. Suki. That's it, man.
Provoscopie, l'émission politique de divergence aux commandes le loup, le renard et la belette. Et avec nous, pour vous, Jean-Pierre Moore, le régent de l'agglo montpelliéraine. Durant 90 minutes, nous allons naviguer en perpénard le long des rives du Lez. Nous divergerons ensemble sur la faillite programmée de notre système scolaire et sur les réformes attendues pour la formation des jeunes. Au-delà, nous pinaillerons les réformes sarkoziennes et particulièrement nous aborderons la question des retraites pour les pépi-boomers. Nous discuterons aussi de la réforme du mode de scrutin pour les élections à venir, dont celle concernant les nouveaux territoires. Puis, tranquillement, nous suivrons la vie quotidienne du régent de l'agglo montpelliéraine en l'absence du grand Georges, notre président médiatisé. Enfin, nous partirons bras dessous vers les avenirs incertains d'un de nos barons héroletés. Enfin bref, de quoi passer un petit moment citoyen, vous en conviendrez. Et maintenant, place au palabre.
Divergente et divergent. Vous êtes bien calé dans vos fauteuils ? Quelques glaçons dans vos verres respectifs ? Bon. Vous le savez, à Provoscopie, rien ne peut se faire sans l'Uchronie du loup. Ce soir, il serait question de la mort d'un tabou, le baccalauréat. Qu'en est-il, le loup ?
Écoutez, un petit peu comme toutes les semaines, j'ai un scoop. Réunion au sommet dans la plus grande discrétion ce midi entre monsieur le préfet et monsieur le recteur. Ils déjeuneraient tous les deux en compagnie de leur directeur de cabinet dans quelques restaurants disposant d'un salon privé à l'abri des regards. Les présidents d'université et les inspecteurs d'académie en seraient aussi. Que voilà une belle tablée. Et chacun de s'interroger. Quelle fut la teneur des discussions et qu'en est-il ressorti ? Cette réunion a été faite sur injonction du ministre Luc Châtel, qui en avait reçu l'ordre lors d'un conseil restreint, directement de la présidence de la République. Objet ? Réorganiser la fin des études secondaires et l'accès aux études supérieures. Autrement dit, concrètement, supprimer le bac comme sésame à l'entrée dans les universités et introduire une sélection déguisée par le biais d'un examen d'entrée. Mais avant de l'imposer à tous les élèves, l'expérience devrait être tentée dans les 10 pôles universitaires d'excellence choisis par le gouvernement, dont Montpellier. D'où vient ce grand chambardement qui ose briser ce qui est un véritable tabou français ? Ne cherchez pas, de Bruxelles. Harmonisation, harmonisation. Comme le fait de regrouper les matins et de raccourcir les vacances scolaires, soi-disant trop longues en France. Comme le fait de différencier chez nous universités et grandes écoles, études populaires et études élitistes. Bon, et ça fait quoi de faire tomber ce tabou qu'est le bac ? Rien. Si ce n'est qu'il est devenu, depuis qu'il est littéralement donné, le rite de passage de l'adolescence à l'âge adulte. Celui de la citoyenneté, en même temps que la JOPD, le service militaire réduit à 24 heures. Alors, si le bac ne sera plus que la sanction des études secondaires, comme l'était le certif de nos arrière-grands-parents, deux idées s'imposent. Il faudra lui redonner un sens à ce bac, et il faudra un examen d'entrée à l'université calqué sur le mode de celui imposé à l'entrée des grandes écoles. Il faudra s'y préparer. Dans d'autres académies, il serait question dès l'année prochaine d'instituer deux bacs. Le premier en fin de première qui sanctionnera les études secondaires par le contrôle continu, et le second à la fin de la terminale qui sera le sésame pour l'entrée dans les études supérieures. Un peu comme au bon vieux temps. Manquerait plus qu'il s'attaque à tout le système. Qu'il remplace les classes maternelles par des jardins d'enfants. Qu'il fasse éclater le collège unique et qu'ils instaurent le chèque scolaire. Manquerait plus que ça, ma bonne dame. Oh, bien sûr, encore une fois, tout cela n'est qu'uchronie. Mais comme d'habitude, si tout n'est pas entièrement vrai, rien n'est tout à fait faux. Merci, puis maintenant place au débat. Mais avant le débat, une petite musique choisie par notre invité Jean-Pierre Moore. Un petit morceau de Claude Nougaro, Toulouse, assez surprenant, parce qu'on est à Montpellier. Alors je ne sais pas si Jean-Pierre Moore a déjà pris acte de la disparition du Languedoc et refait de Toulouse la capitale du Languedoc. Bon, on aura l'occasion d'en débattre et d'en discuter. Alors quatre notes de musique, Claude Nougaro. au Toulouse de Claude Nougaro. La technique nous a même proposé de laisser les micros ouverts pour que Jean-Pierre Moore chante les paroles en même temps. Jean-Pierre Moore nous a dit qu'il faisait trop beau pour ça, quoi. Ouais. Alors, on va passer maintenant aux choses sérieuses. En la compagnie donc de Jean-Pierre Moore, celui que j'ai baptisé le régent de l'agglo montpelliéraine. Et ensemble ce soir, on va diverger, pinailler autour de trois débats. Tout d'abord, on va revenir sur la question scolaire, un vieux serpent de mer qui agite la classe politique depuis 1945 au moins. Au-delà, nous reviendrons sur la réformite sarkozienne et sur les maux qu'elle engendre dans toutes les strates de la population, l'école pour les jeunes, les retraites pour les vieux, la réforme territoriale pour tous. Et nous demanderons à Jean-Pierre Moore, qui est socialiste, s'il considère comme Martine Aubry que Sarkozy est un clone de Madoff. Puis nous allons lui demander de nous conter la vie quotidienne à l'agglo en l'absence du président. Enfin, nous tenterons de deviner les avenirs qui s'offrent à notre invité entre le souhaité, le probable et l'incertain. Et qu'est-ce qui se passe le matin quand il se rase? Enfin, voilà de quoi débattre et diverger avec notre invité Jean-Pierre Moore, vice-président de l'agglo, entre autres choses, maire de Cournonsec et puis actuellement président de l'agglomération en l'absence de Georges Frêche. Alors, on va passer
au... Bonsoir,
bonsoir, bonsoir, Jean-Pierre Moore.
Bonsoir,
oui.
Bonsoir, bonsoir.
Alors, revenons un petit peu sur cette question scolaire, sur l'uchronie de tout à l'heure, la fin d'un tabou, la mort du bac. Le système scolaire en France n'est plus du tout performant au regard de ceux de nos voisins européens. De plus, c'est clair, il coûte très cher, il faut plus le réformer, il faudrait en changer. La faute à qui, la faute à quoi? À 68, au collège unique, à Chevènement, 84 entre autres. De plus, Bruxelles qui nous pousse à l'harmonisation. Alors que faire, comme aurait dit Lénine? Alors, parlons d'abord des maternelles. Qu'est-ce qu'il en pense, Jean-Pierre Moore, de cette suppression à terme des maternelles pour en faire des jardins d'enfants, puisque c'est plus dans les cartons, c'est en train de sortir véritablement dans les cartons, puisqu'il serait question de supprimer déjà l'entrée des jeunes à l'âge de 2 ans en maternelle, et puis donc l'année d'après, à 3 ans, à 4 ans, à 5 ans, enfin bref, de remplacer ça par des jardins d'enfants, c'est une espèce de gardiennage. Alors il en pense quoi, Jean-Pierre Moore, déjà de ça, au niveau des maternelles, puisque ça concerne les communes, là, directement?
Bonsoir tout d'abord. Donc, ce que j'en pense, c'est qu'on est dans une série de litotes qui, de manière récurrente, vous êtes remonté à 45, concerne l'éducation nationale, où on revient pour changer, pour modifier, pour faire des réformes. Le problème sérieux actuellement, c'est que ces litotes deviennent des risques, effectivement, par rapport à le service que peuvent attendre les populations. Alors, si on prend le cas de la maternelle, bon, là, le risque majeur, c'est le fait qu'on ne puisse plus accueillir les enfants à partir de 2 ans, qu'on transfère, en fait, un service régalien de l'État, qui est celui de l'éducation, avec l'accueil le plus tôt possible dès qu'ils sont en âge de rentrer dans la communauté des enfants en bas âge. Et de supprimer en quelque sorte de faciliter une évolution qui fait que, alors que c'est l'État qui, de par ses pouvoirs régaliens, est en situation d'organiser ce service public de l'enseignement qui commence très très tôt, là on dériverait vers des systèmes altergarderie, jardin, etc., qui font que ce sont les collectivités locales qui prennent directement la responsabilité et l'initiative d'avoir à organiser, alors même que c'est dans le champ de l'éducation nationale. Et ça, c'est très très grave par rapport à la dérive financière que ça entraîne, au coût pour les services, et puis également au fait de ne pas assurer sur le territoire national une équité au niveau de l'éducation, parce qu'il y a des communes qui sont plus ou moins en situation facile de le faire par rapport à leur richesse fiscale, leur richesse financière, et que par contre des collectivités qui seraient beaucoup plus en difficulté de ce plan-là, ou qui seraient moins importantes en termes de population, se verraient dans la contrainte difficile à résoudre pour assurer ce service-là. Donc il y a un grand danger pour moi, de même que, qui est tout à fait caractéristique un peu de l'évolution de ce qu'on appelait les services publics, qui sont en train de glisser vers soit une privatisation, soit vers une négation de ce qu'était leur organisation d'ensemble, et qui font qu'à un certain moment, il y a une nécessité de réagir de manière républicaine par rapport à ces questions.
Et puis aussi avec les programmes, parce que moi, j'ai été surpris il y a quelques années de constater qu'en maternelle, dès l'âge de 2 ans, il y avait des programmes, et des programmes de français, de maths, j'allais dire de culture générale. Alors du coup, ça veut dire que le gamin, quand il rentrera à 6 ans, à l'école. Et tout ça, il ne l'aura pas fait. Et d'une part, au niveau de la maîtrise de l'esprit, mais aussi de la maîtrise du corps. J'ai vu au niveau des gamins, dès l'âge de 2 ans, comment on leur apprenait à maîtriser leur corps. Et puis aussi la sociabilité au niveau des enfants. L'apprentissage de la vie
la maternelle
en société.
La maternelle était un temps, disons, de passage entre la toute première enfance, l'école primaire qui vient derrière, mais avec une régulation dans le temps, un accompagnement, un début effectivement d'initiation de programme qui... Parce qu'on sait très bien aussi que c'est dès le plus jeune âge que se forme la...
Exactement, c'est les 5 premières années, je crois, qu'on dit que les...
Les 5 premières années, font au niveau
que se forme la
psychologie, oui, c'est ce qu'on considère entre 0 et 5 ans.
L'équilibre futur de l'individu. Bon, là, je pense qu'effectivement, il y a de gros dangers, mais on peut retrouver les mêmes caractéristiques de faiblesse, de risque dans les évolutions par rapport aux services que j'évoquais, sur l'ensemble de la palette un peu des services publics, que ce soit la formation, que ce soit les réformes territoriales qu'on évoquera, que ce soit le problème de la santé, que ce soit le problème de l'enseignement. Bon, alors, il n'y a pas que la maternelle. Hein,
oui, alors justement, là, le gouvernement, visiblement, va déposer un projet, dans la journée, à propos des rythmes scolaires. Alors, on passerait à un système un peu européen, il y aurait des cours que le matin, on ferait du sport l'après-midi, on passerait, alors au niveau rythme hebdomadaire, on mettrait à la poubelle la semaine des 4 jours, on diminuerait les vacances scolaires, tout un tas de réformes sur la forme et non pas sur le fond, puisque sur le fond, c'est-à-dire les fondamentaux, lire, écrire, compter, de l'utilité des matières de découverte, les nouvelles technologies de l'information, tout ça, on n'en parle absolument pas. Alors, sur ces questions de rythme scolaire, vous en pensez quoi de...
Mais là aussi, on est dans l'effet gadget. C'est-à-dire, il y a quelques années en arrière, on est passé à la semaine de 4 jours en justifiant que ça pouvait être intéressant pour dégager du temps libre, etc. De fait, personnellement, je pense que c'était essentiellement dans le sens de favoriser peut-être une forme de confort par rapport aux parents. À partir de là, on commençait à rentrer beaucoup plus facilement dans des réformes que souhaitait le gouvernement. Moi, je pense que l'équilibre des enfants, il doit être davantage lissé sur la semaine. Il y a très certainement des journées qui sont trop chargées actuellement, donc il faut peut-être effectivement réduire légèrement le temps d'occupation des enfants sur des activités...
Mais comme on faisait avant...
De type éducatif, et ensuite peut-être légèrement réduire les vacances, mais enfin, de manière à avoir un rythme plus étal. Mais regardez, donc il y a quelques années, on est passé à la semaine de 4 jours, maintenant on commence à dire c'est insuffisant, ça ne va pas, il faut revenir au mercredi, il faut faire travailler le samedi. Je pense qu'il y a quand même une vocation première qui est celle de l'éducation, de faire en sorte que le rythme scolaire des enfants, on disait à l'instant que le décisif démarre le plus tôt possible dans la vie de l'enfant, et ensuite il faut effectivement assurer une régulation, une occupation de temps beaucoup plus harmonieuse.
Et qu'on lui apprenne surtout à lire et à compter, quoi.
Et
c'est vraiment le fondamental.
Les fondamentaux, apprendre les fondamentaux.
Et se servir des nouvelles technologies d'information.
Non, c'est tout à fait, mais quant à l'aspect qui revient de temps en temps, qui est de dire l'après-midi, il faudrait faire des activités qui sportives, qui plus culturelles, qui des activités de détente, d'ouverture un peu des enfants.
Est-ce que c'est le rôle de l'école de la détente pour les enfants ?
C'est un vieux débat où on a comparé le système anglais, par exemple, à l'époque au système français. Je suis favorable pour que, de toute façon, il y ait davantage d'activités sportives, davantage d'activités culturelles à l'école. Mais ça ne passe que pour un temps beaucoup plus lissé, beaucoup plus harmonieux, en privilégiant les fondamentaux. Le fait, comme vous dites, de savoir lire, savoir compter, savoir se situer par rapport au principe majeur de la société dans lequel va se trouver l'enfant au fur et à mesure de ses différents âges.
On le voit en Angleterre, même en Allemagne, encore plus aux États-Unis. Quand on demande à un jeune de 14-15 ans c'est qui est Marx, ils vous répondent, c'est les Marx Brothers.
Oui, oui.
Donc, en termes de culture générale. Alors que en France, on critique le système et tout. Alors, je crois qu'il n'y a pas un jeune, quand il arrive au moment du bac, qui confondra les Marx Brothers avec Karl Marx.
Tout à fait.
Au niveau réforme, il y a quand même quelque chose...
Non, mais il y a quand même un problème, là. Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais alors qu'on a réduit le temps de travail pour les adultes, dans le même temps, il faut quand même reconnaître que on a voulu insérer dans les programmes scolaires, il y a des matières nouvelles. On veut leur apprendre les langues, on veut leur apprendre l'initiation à l'informatique, on veut leur apprendre...
Bon. Ah oui, non, mais l'ordinateur, c'était les pleins et les déliés avec la plume il y a 50 ans.
Oui, non, mais
à la limite, presque qu'ils sachent écrire manuellement, n'a pratiquement plus aucune importance, encore faut-il qu'ils sachent écrire de façon informatique.
La conclusion, quand même, quand on regarde, par exemple, le travail d'un gamin à l'école, il y a des heures de présence qui sont quand même assez conséquentes. Il y a des boulots à la maison. Bon, les gamins, ils font souvent des semaines de 40 ou 45 heures, quand même. Ça, c'était quand même une réalité.
Oui, mais donc, avec des cerveaux tout neufs, des neurones tout neufs.
Oui, mais avec un temps qui est mal réparti sur
la semaine. Voilà, il y a une mauvaise répartition.
Mais... Il y a le fait également que...
Excusez-moi, on dit que les enfants sont fatigués et tout. Si les parents couchaient les gamins à 8h du soir ou 8h30, au lieu de les coucher à 10 ou 11h du soir, alors, les gamins, ils seraient moins fatigués dans la journée. Quoi.
Déjà, il y a le fait aussi que l'évolution de la société, elle se caractérise par le fait que les femmes travaillent de plus en plus. C'est heureux, d'ailleurs, par rapport à l'émancipation féminine. Mais ça pose aussi quand même globalement des problèmes de le temps ou la disponibilité des parents dans le contexte un peu social qui est aussi difficile au fur et à mesure de l'évolution du temps, quant à la possibilité pour les parents de pouvoir effectivement s'occuper aussi des enfants le soir quand ils rentrent à l'école. Ça, c'est un élément
important. Jean Clermont, il devient proudhonien, là. La femme, non, mais avec les trois cas.
Mais c'est une réalité. C'est-à-dire qu'on a de plus en plus.
Les enfants.
On a de plus en plus, malgré le fait qu'il y ait des parents, bien sûr, qui s'occupent de leurs enfants, mais on a de plus en plus une situation dans laquelle, finalement, la société renvoie à des institutions, entre guillemets, dont on sait qu'elles ont de moins en moins de moyens, parce qu'il faudrait quand même qu'on parle des effectifs par rapport aux postes d'enseignants qui sont supprimés. Etc. On renvoie à différentes institutions le soin de s'occuper des enfants. Le rôle des parents est essentiel. Le rôle de l'éducation nationale est essentiel, à condition de ne pas le brader, à condition de bien l'organiser. Et puis il y a aussi, pour évoquer un autre aspect de ces soi-disant réformes, qui sont souvent mises en chantier, mais qui sont souvent mises en chantier essentiellement comme un effet d'annonce qui permet de gommer d'autres choses. C'est le fait que la société française a de plus en plus de difficultés, et ça date pas d'hier, d'assurer une bonne efficacité entre, au sortir par exemple de la période du bac ou de la période pratique, ou pour ceux qui font moins d'études parce qu'ils ont moins de capacités intellectuelles, le lien entre le milieu de travail, le milieu éducatif, et l'apprentissage, par exemple. Bon, il est évident que ça, on est en retard par rapport à ce qu'a pu l'être à un moment le système, admettons, allemand, qui était beaucoup plus pratique sur le plan de la formation technique des jeunes. La formation technique a été très très souvent dévalorisée comparativement aux matières littéraires. Je crois qu'il faut redonner un peu d'équilibre dans tout ça. Et il faut surtout se projeter pour l'avenir. Alors, il y a des nouveaux matériaux, les technologies, on est beaucoup plus ouvert aux choses de par le monde. La France a un rôle, à mon avis, à jouer sur ce plan-là, sur le plan des technologies, sur le plan de la technicité, sur le plan des nouvelles énergies, par exemple, tout le volet scientifique qu'il y a derrière, qui peut permettre effectivement de jouer des coopérations intéressantes avec des pays qui sont dans la difficulté. Là, il y a un enjeu pour la jeunesse, donner une perspective un peu de pouvoir s'investir. On a un contexte de travail qui est difficile, un contexte d'emploi. Logiquement, le système éducatif, il a pour vocation d'éduquer des individus à en faire des citoyens, ça c'est le premier truc. Le deuxième, c'est également de leur donner toute capacité à pouvoir exercer tout au long de leur vie un métier, une activité.
Alors justement, est-ce qu'il ne faudrait pas revenir sur la scolarité obligatoire à 16 ans ? Parce qu'il y a des gamins dès l'âge de 12 ans, on sait qu'ils feront pas de longues études. Et donc, ils traînent sur les bancs, ils s'ennuient, ils perturbent. Est-ce qu'il faudrait pas revenir à la scolarité obligatoire jusque environ 14 ans? Et puis à ce moment-là, débuter le véritable enseignement professionnel, comme vous le disiez. Mais l'enseignement professionnel, est-ce que c'est pas le rôle d'autre chose que l'école? Est-ce qu'il faudrait pas donner ça à d'autres ministères, ministère de l'Industrie, de l'Agriculture, de je ne sais quoi? Et puis le cycle primaire, l'école primaire, est-ce qu'il faudrait pas le faire aller justement jusque à la fin de la cinquième? À ce moment-là, l'obligatoire. Et au-delà, presque supprimer le collège et du cycle primaire, comme c'était le cas d'ailleurs avant la réforme de 74 et du collège unique, on rentrerait directement au lycée. Ceux qui rentreraient au lycée partiraient a priori pour des études longues, tandis que les autres iraient vers des études courtes non dévalorisées sur de l'enseignement professionnel fait par des gens de métier au niveau professionnel. Le prof de l'éducation nationale n'est pas quelqu'un qui est capable de donner un métier, et d'ailleurs c'est pas son rôle. Alors, est-ce qu'il faudrait pas revoir un petit peu tout ça, c'est-à-dire pratiquement supprimer aussi ce collège unique qui est facteur d'inégalité et non pas facteur d'égalité tel qu'il avait été prévu quand même au départ sous Giscard en 74 avec la réforme Abi.
Oui, et puis regarder également d'autres aspects pour compléter, je suis d'accord avec les évocations que vous venez de faire, et puis regarder aussi les dégâts que fait la carte scolaire qui
fait qu'à
un certain moment on cible positivement des établissements dans lesquels on estime et qu'on regrouperait entre guillemets les meilleurs, qui sont les meilleurs, etc. Et puis de l'autre côté on a des établissements dans lesquels, pour des raisons de proximité, pour des raisons sociales, on se retrouve avec une proportion de gamins qui est plus en difficulté, alors même que le problème de fond n'est pas réglé. Et effectivement, il est vital au premier stade de l'adolescence de faire en sorte que des enfants, même s'ils n'ont pas forcément peut-être ou des aptitudes ou une volonté, qu'ils soient accompagnés pour les guider vers davantage d'amélioration de leur propre connaissance, quoi, en quelque sorte. Et ça, c'est le rôle de la société, parce que on a malheureusement on est dans une situation où actuellement, par rapport à ce qui a pu exister, moi j'ai la conviction qu'on va vers une forme d'appauvrissement progressif, avec une perte de valeur, d'ouverture aux autres. Et il est très très important que l'école, mais pas seule l'école, vous avez raison de dire que en termes d'organisation de l'État, il y a l'éducation nationale, mais il y a le ministère de l'Industrie, il y a la culture également qui a un rôle à jouer par rapport à ça. On doit fabriquer, initier des futurs citoyens qui soient responsables, qui dans l'esprit de la République, et je pense qu'on doit se donner tous les moyens pour le faire. Et ça pose le problème là, parce que ça me paraît quand même vital, au-delà de ces réformes ou de ces pseudo-réformes qui sont annoncées, des moyens que l'on compte consacrer effectivement à l'éducation nationale.
Je pense dans les premières années de la vie, c'est-à-dire les mômes jusqu'à l'âge de, justement comme tu as dit, jusqu'à 14 ans, c'est peut-être là où effectivement il faut mettre le plus de moyens.
Voilà, et pourquoi ne pas réintroduire véritablement le certif, ce qui était le certif, le mettre en fin de cinquième. Et donc là, il y aurait vraiment un socle commun qui comprendrait le lire, écrire, compter, mais aussi les NTIC, les nouvelles techniques de l'information. Et puis, au-delà, ceux qui rentreraient au lycée dès la quatrième, sanctionner la fin des études secondaires par un bac qui inclurait cette fois-ci au-delà la culture générale et la citoyenneté. Et puis arrêter de faire de ce bac la première bande d'hermine dont la licence est la deuxième et la thèse la troisième, c'est-à-dire le sas d'entrée dans l'université, puisqu'aujourd'hui le bac est donné à tout le monde. C'est une absurdité, car on est déjà à 86-87% de reçus au bac, c'est débile, ça n'a aucun sens. Non, est-ce qu'il ne faudrait pas revenir à un vrai bon certif de fin d'études primaire, un bac qui sanctionnerait les études secondaires et pour les études supérieures passer à autre chose?
Mais moi j'y suis assez favorable. Je pense que on est dans des temps où à un certain moment il faut remettre un peu d'harmonie et un peu de, entre guillemets, de rigueur par rapport au fait que le fait d'atteindre un certain niveau, ça doit être quand même étalonné, ça doit être vérifié avec des accompagnements, des moyens qui sont donnés pour le faire. Mais je pense que la préparation des lendemains passe par ce genre de réorganisation. Mais c'est un véritable débat, parce que poser des problèmes comme ça, c'est le poser tout à fait différemment de ce à quoi on est confronté actuellement.
Et puis ça aboutira aussi à forcément ce vieux serpent de mer depuis 1950, c'était la première grève, lorsqu'il a été question, évoqué pour la première fois, l'idée de sélection à l'entrée dans les universités, parce qu'en 1950 déjà on considérait que le bac était donné. Alors ça fait 60 ans de ça.
Et Loulou, mais les suggestions que tu fais, ça n'a rien à voir avec la réforme comme est en place le gouvernement.
Ah non, mais le gouvernement lance soi-disant à partir d'aujourd'hui un débat national. Oui. Alors participons au débat national, un peu comme Marianne d'ailleurs.
Non, mais je précise quand même.
Il y a trois semaines. Ah, c'est clair que c'est pas ce que le gouvernement a comme idée. Mais quand même, l'idée de sélection à l'entrée des universités, comme dans ce qui est le cas dans les grandes écoles, il va bien falloir y arriver un jour. C'est-à-dire avec un véritable concours d'entrée. Parce que pour l'instant, le concours à l'université, il se fait par la sélection par les chaises. Hein. C'est-à-dire vous avez des amphis de 300 places et vous avez 900 étudiants. Il y en a 600 forcément qu'on parle de place. On le voit même à Sciences Po Paris, où ils sont maintenant 900 en première année pour des amphis de 400 places. Donc même à Sciences Po Paris, il y a une sélection par les chaises qui se fait aujourd'hui. Ça, c'est grâce à Richard Descoings, le grand ami de Nicolas Sarkozy. Mais je voudrais qu'on aille un tout petit peu plus loin et qu'on évoque cette idée de vieille idée centriste, libérale, la mise en place du chèque scolaire. On sait combien coûte un enfant en primaire, combien coûte un collégien, combien coûte un lycéen, combien coûte un élève en classe prépa, combien coûte tel étudiant, selon qu'il est à Polytechnique, à Montpellier 3, à Paul Valéry ou autre. Est-ce qu'on ne pourrait pas, tout simplement, inventer ce chèque scolaire, donner aux parents l'équivalent de la somme, mettons un collégien qui coûterait, on va dire, 6 000 euros, et bien on donne aux parents ce chèque de 6 000 euros, et avec ce chèque, les parents vont inscrire leur gamin, j'allais dire, où ils veulent. Et puis s'ils sont dans une école, entre guillemets, privée, qui coûterait, je dis n'importe quoi, 10 000 euros, et bien dans ces cas-là, les parents, ils rajoutent 4 000 euros s'ils veulent, ou pas. Enfin, faire quelque chose un petit peu comme ça. Ça rétablirait pas un peu d'égalité, ça, le chèque scolaire ?
D'inégalité, oui, certainement.
Oui, enfin, attention quand même aussi, il faut le nuancer, hein, parce qu'à partir du moment où vous donnez une dotation, une somme, bon... comment est-elle utilisée ? Il faut quand même des garde-fous derrière, hein, parce que bon, si vous avez...
Oui, bien sûr, on ne va pas acheter des cacahuètes avec. Ou allez,
Il faut le replacer dans l'objectif général qu'on doit assigner ou pas à un service, disons, éducation au niveau du pays. Quand on forme des nouvelles générations, bon, on les forme en fonction aussi bon, d'une nécessité, d'une volonté d'éducation, de formation des individus, mais on le fait également par rapport aux objectifs du pays, c'est-à-dire quelle place on a l'intention de jouer dans le concert européen, dans le concert mondial, par rapport aux métiers qui sont en difficulté, par rapport à la spécificité.
Justement, on pourrait faire de l'incitatif là-dessus.
Mais oui,
si on veut former des ingénieurs dans l'environnement,
oui, mais ça veut dire
on donnerait une prime supplémentaire. Mettons que le jeune il coûte 10 000 euros, et ben là on donnerait 12 000 euros pour ça.
Ça veut dire qu'il faut rebattre complètement la donne, hein, par rapport à la manière dont l'État s'engage vis-à-vis de ses familles, de ses populations.
Voilà, et puis on pourrait même aller plus loin pour les études inutiles, on ne donnerait que 3 000 euros.
Parce qu'actuellement, vous avez, si vous prenez rien que le cas au niveau des écoles primaires, ou des écoles maternelles, bon, toutes les communes, par exemple, au départ, il y avait la caisse des écoles. La caisse des écoles, elle était essentiellement faite pour permettre l'acquisition des livres, des fournitures, etc. Bon. Toutes les communes n'ont pas une caisse des écoles. C'est géré différemment, soit directement en régie par la collectivité, soit par des associations. Bon, moi, personnellement, par exemple, quand on a été élu en 83, on a créé une caisse des écoles. Et à l'origine, quand on a créé ça, au départ, je pense qu'on n'était pas nombreux dans le landerneau des collectivités locales ayant créé une caisse des écoles. Quel avantage ça ? Ça, qu'à un certain moment, vous mutualisez dans une caisse commune des équipements indispensables au niveau que souhaite atteindre l'école quant aux conditions d'exercice un peu de la formation scolaire, et les parents sont dédouanés de ça. Après, il peut y avoir une cotisation supplémentaire pour telle activité, bon, si on veut le développer. Mais je crois que c'est ce principe qu'il faut définir. Il y a des moyens indispensables à donner aux structures scolaires, qu'elles soient maternelles, on a évoqué la maternelle, le primaire, le secondaire, l'université, etc. L'État est à choisir. Actuellement, c'est réparti comment ? C'est réparti avec le système d'éducation qui est de la responsabilité de l'État au point de vue enseignant. Et puis, vous avez les strates institutionnelles. L'université, c'est l'État. La région, c'est le lycée. Merci. Le département, ce sont les collèges. Et les communes assurent le niveau primaire. Bon. Ça peut fonctionner comme ça. On peut mutualiser, par exemple, à travers les régions ou les départements, le côté lycée et le côté collège. Mais à un moment, il faut se mettre en phase pour être d'accord, pour mettre les moyens qu'il faut pour conforter, valoriser et mettre vraiment au top le système éducatif. Et je crois que ça, c'est un grand enjeu national. Ça, c'est du pouvoir régalien de l'État que de considérer que l'éducation nationale, la recherche, c'est une priorité. Priorité des priorités, ça va passer par ça. Ensuite, le reste est complémentaire. Il y a d'autres enjeux qui sont importants, mais le fondamental d'un pays, a fortiori comme le nôtre, et dans le rôle qu'il peut jouer par rapport aussi à des pays en développement, dans les échanges qui peuvent être constitués, ça passe par ça. Et un pays qui met insuffisamment d'argent, on évoquait le sport après par rapport à l'après-midi, mais un pays qui met insuffisamment d'argent dans sa recherche, dans ses activités culturelles et sportives, c'est un pays qui se cisèle par rapport à l'avenir, qui se cisaille par rapport à l'avenir.
Alors pour terminer là-dessus justement, est-ce que la formation des jeunes, l'éducation des jeunes, l'instruction des jeunes ne devrait pas se terminer par une année de service civique ? À l'époque du service militaire, il avait tous les défauts, le service militaire, sauf un. Il permettait véritablement l'intégration. Il permettait même de donner un métier à des jeunes qui n'en avaient pas. Est-ce qu'il ne faudrait pas réintroduire, non pas un service militaire, mais un service civique de 1 an, qui clôturerait, en gros, le cycle de formation? Et ce service civique, il aurait lieu, pour certains, à 15 ou 16 ans, à la fin de leur formation d'apprentissage professionnel, pour d'autres, à 20, 22, 25, 27 ans, peu importe, à la fin de leur formation universitaire, mais ce sous forme obligatoire.
J'y suis favorable et je pense également qu'on peut le lien, le contenu de cette année, en quelque sorte, de service civique, cette année ou ces 8 mois, ou ces 2 mois, peu importe.
On peut discuter des modalités.
Le temporel qu'on fixerait là-dessus, il doit être directement en équation aussi, avec en relation avec le fait de pouvoir déboucher sur un emploi ensuite.
Voilà, oui.
Ça me paraît tout à fait, ça serait un lien, alors plutôt que des combines telles qu'on a pu les avoir dans le temps entre les possibilités d'emploi en alternance, d'emploi jeune, ce qui débouche très rarement sur une pérennité pour les enfants, sauf s'il y a une forte volonté de l'institution ou du service ou de l'entreprise qui...
Ça pourrait même être régionalisé sous compétence des régions, éventuellement. Bon, ça nous fait déjà une vraie révolution, je vous disais, au niveau éducation nationale. Visiblement, c'est pas tout à fait ce qui est dans les cartons du ministère. Quoique, il y a quand même certaines petites chose dont le chèque scolaire, dont je soupçonne le gouvernement d'avoir ça sous le carton. Enfin bref, de toute façon, vous inquiétez pas, on reviendra régulièrement.
Et moi, je me méfie
sujet,
beaucoup.
Il y a un débat national lancé là-dessus. Quoi.
Je me méfie beaucoup du chèque scolaire dans ce sens que je ne suis pas du tout certain que.
Je pense que c'est une source d'inégalité.
Tout à fait.
C'est trop cher. On ne peut plus jouer sur les équipes comptables. Si on doit en début d'année délivrer des sommes de 6 000, 3 000 euros, on ne peut plus jouer au mesure d'année sur les équilibres comptables. Ça va coûter trop cher à l'État qui n'a pas les liquidités nécessaires aujourd'hui pour sortir tant d'argent à un temps donné.
Bon, alors, trop cher. Si même Loris est contre le chèque scolaire, alors là, on est foutu. Là. Bon, alors, on va faire une petite pause musicale. Et une petite pause musicale avec Jean-Pierre Amour, notre invité, et qui souhaitait réécouter un bon petit coup de Jean Ferrat. Je ne le savais pas si proche du Parti communiste. Jean-Pierre Moore, bien sûr. Alors, une petite pause avec Jean Ferrat.
Il se peut que je vous déplaise en peignant la réalité, mais si j'en prends trop à mon aise, je n'ai pas à m'en excuser. Le monde ouvert à ma fenêtre, que je referme ou non l'auvent, s'il continue de m'apparaître, comment puis-je faire autrement? Je ne chante pas pour passer le temps. Le monde ouvert à ma fenêtre, comme à l'eau claire le torrent, comme au ventre l'enfant à naître et neige la fleur au printemps. Le monde ouvert à ma fenêtre, avec sa dulle et ses horreurs, avec ses armes et ses reîtres, avec son bruit et sa fureur. Je ne chante pas pour passer le temps. Mon Dieu, tout assumé, l'odeur du pain et de la rose, le poids de ta main qui se pose comme un témoin du mal d'aimer. Le cri qui gonfle la poitrine de Lorca, Mayakovsky, des poètes qu'on assassine ou qui se tuent pourquoi, pour qui? Je ne chante pas pour passer le temps. Le monde ouvert à ma fenêtre, et que je brise ou non la glace, s'il continue de m'apparaître, que voulez-vous donc que j'y fasse? Mon cœur, si tu t'arrêtes, comme un piano qu'on désaccorde, qu'il me reste une seule corde, et qu'à la fin mon chant répète. Je ne chante pas pour passer le temps.
Gros. retour dans nos studios, donc Provoscopie avec Jean-Pierre Moore, notre invité. Eh ben, on va passer maintenant à la réformite sarkozienne, un véritable cancer sociétal. Alors, redisons un tout dernier mot de ce casse de l'école républicaine. Un grand débat national est lancé par le gouvernement. Marianne, l'Hebdo, l'avait lancé il y a déjà quelques semaines. Alors, quel doit être le rôle de l'école? C'est une espèce de vieux serpent de mer, parce qu'il y avait déjà eu un grand débat national en 2003, à savoir, est-ce qu'il faut instruire, éduquer? Mais surtout, je voudrais qu'on revienne sur un tout petit point. Que dire de la démission des parents? Parce qu'en fait, le rôle de l'école, à mon sens, c'est d'instruire. L'éducation, c'est le rôle des parents. Maintenant, il y a une démission des parents, du coup, l'école doit aussi éduquer, ce qui n'est pas son rôle, a priori. Alors, est-ce que le problème numéro un n'est pas le problème de démission des parents?
Oui, on peut parler de démission de parents de façon générale, mais il faut le nuancer aussi, parce que les parents eux-mêmes, ce sont des travailleurs, des salariés, des employés. Enfin, bon, le rythme de la vie a changé. Les conditions un peu de l'existence ont évolué. J'évoquais tout à l'heure le fait que de plus en plus de femmes travaillent et c'est heureux, mais ça pose des problèmes aussi d'organisation du couple par rapport à...
Du couple quand il y a couple, parce que...
Quand aussi, il y a couple, avec le fait qu'il y a de plus en plus de familles monoparentales également. Donc il y a des phénomènes sociétaux, sociaux, culturels qui ont considérablement évolué sur ces 30 à 40 dernières années. Et on est dans un autre monde.
Et la mobilité du travail.
On est dans un autre monde.
Les déplacements pour aller bosser sont de plus en plus longs.
On a le temps de travail, on a le temps de trajet, on a également les nécessités, liées au fait d'être en société qu'il faut aller se renseigner sur ceci, sur cela. Donc les parents sont nécessairement moins... On le constate, c'est un constat quand même. Moins présents, sauf des milieux qui ont la chance d'être peut-être...
Oui, milieux favorisés.
Voilà, etc. Ouais. Mais globalement, on est dans cette situation. Donc, effectivement, il peut y avoir le sentiment qu'il y a une démission des parents. Je pense tout simplement que la situation des parents par rapport aux enfants, elle est à resituer dans le cadre d'une évolution de la société. À l'époque, on disait, il y a le curé, il y a le maire, il y a l'instituteur, etc. Tout ceci a évolué. Donc, il doit y avoir des éléments un peu de régulation, de bordage, si je peux m'exprimer ainsi, autour de la place de l'enfant, son éducation, qui font qu'on dépasse là le champ de l'éducation nationale, on est tout à fait dans l'organisation de la société. Et les réformes que vous évoquez, sont tout à fait au cœur de ce dispositif. Alors, est-ce que ce sont réellement des réformes qui sont souhaitables? Si on prend celle, vous avez évoqué celle des réformes territoriales.
Hein, alors, on va en parler. Parce que juste avant qu'on parle des territoriales, j'aimerais qu'on dise deux mots de la réforme des retraites. Ah. Parce que Sarko, il fait tout en même temps. La réforme des retraites, est-ce que c'est un incontournable, inévitable? Parce que si on fait un petit historique du système de retraite par répartition créé en 1945 par le CNR, le Conseil National de la Résistance et De Gaulle, il a permis aux vieux salariés de partir en retraite dès 1946. Les premiers n'avaient donc jamais cotisé.
Tout à fait.
Ça a perduré, certes de moins en moins, jusqu'en 1985. Durant ces 40 années, ce sont les salariés qui ont payé pour les anciens. Mais ceux-ci étaient peu nombreux au départ et l'espérance de vie était très inférieure aujourd'hui. Depuis, c'est devenu pratiquement ingérable. En fait, on a affaire pratiquement à une espèce de système pyramidal. Et comme tout le principe du système pyramidal, eh ben, les premiers, ils gagnent, et puis arrivé à un moment, eh ben, c'est perdant. Alors, est-ce qu'il faudrait pas carrément, j'allais dire presque mettre à la poubelle le système par répartition, pour aller vers un autre système?
Alors, je suis pas du tout d'accord pour mettre à l'air le système par répartition.
Ah bon?
Tu t'as douté.
Alors, vous avez évoqué après le 45, le Conseil National de la Résistance, ce que je tenais à dire, on voit globalement, c'est qu'actuellement, on assiste à une attaque en règle contre les fondamentaux, les bases, le principe, l'esprit du Conseil National de la Résistance par rapport à tout ce que recoupait la notion de service, hein, au sens très très large du terme, par rapport à une population telle que celle qui était la nôtre dans ce magnifique pays qu'est la France. Attention par rapport à ça, parce qu'on est en train de mettre à bas tout cet édifice, sous couvert de dire il faut changer, c'est ringard, c'est vieux, c'est dépassé, le contexte démographique a évolué. Bon, ok. Si au 21e siècle, un pays comme la France, qui est quand même dans les, allez, on va le dire, dans les 7 pays les moins en difficulté sur la planète, n'est pas en situation de régler ce problème des retraites, hein, ça me paraît quand même un peu cafri. Quand on sait que d'une part on fait On donne des bachiches un peu de facilité à ceux qui en ont le même besoin, que ce soit le bouclier social, le bouclier fiscal. C'est un exemple que je prends hier, on peut en prendre d'autres. Quand on sait également qu'il y a une évolution aussi des technologies qui permet d'organiser les choses de différentes manières. Quand on sait également, c'est évident, que la durée de vie augmente. Donc on ne peut pas non plus... Ça, c'est évident qu'on ne peut pas écarter le fait que si on prend pratiquement 3 mois par an ou tous les 2 ans supplémentaires, bon, l'âge de moyenne de l'individu, sa durée d'existence évoluant, bon, on ne peut pas toujours considérer peut-être comme un sacro-saint le fait de la retraite à 60 ans. Mais la répartition, ça me paraît tout à fait logique. Par contre, la participation du capital, de la bourse ou autre, à l'édification de l'édifice retraite, ça, il y a des marges entières, je veux dire, à investir là-dedans. Et c'est pas du tout dans ce sens que va le gouvernement. Et ça me paraît quand même tout à fait grave.
Pourtant, il me semble me rappeler qu'en 1999, un ministre des Finances qui répondait au doux nom de Laurent Fabius a été le tout premier à évoquer les retraites par capitalisation.
Oui, mais c'est pas parce que Fabius a évoqué à un moment les retraites par capitalisation que...
Il a pas dit que des vérités, ce garçon, hein.
Que tout individu de gauche considère qu'il faille aller à la capitalisation. Moi, je suis très...
C'est vrai que c'est l'époque où Fabius n'était pas complètement à gauche, ouais.
Je suis tout à fait favorable, comme la plupart d'ailleurs, de la grande majorité du peuple français, à la retraite par répartition. On peut le compléter par des dispositifs dans lesquels il faut la taxation, la cotisation sur la valeur capitale, sur la valeur boursière. Regardez les masses financières qui circulent en dehors de la réalité de la vie quotidienne des gens, qu'ils soient ou pas à la retraite, qu'ils soient en activité ou pas. C'est un véritable scandale. La société doit s'organiser différemment. Et là, je crois qu'il y a un retour, il y a une remise en cause totale de ces dispositifs. Alors, ça fait partie d'un grand débat aussi. Alors, c'est vrai qu'il y a des manifestations, mais on n'a pas le sentiment que le peuple français est dans la rue par rapport à ça, parce que le peuple français, il est aussi en situation qu'il a travaillé quand il a un boulot, il en recherche un quand il n'en a pas. Bon, la retraite, mettons-nous à la place un peu des jeunes qui arrivent. On parlait des jeunes tout à l'heure. Il faudrait qu'ils travaillent jusqu'à quel âge? Jusqu'à 80 ans, 90 ans, pour être en situation de pouvoir avoir une retraite. On se moque un peu du monde par rapport à ça.
Il y a aussi le fait que les jeunes, il y a 30-40 ans, ils commençaient à bosser à 16 ans. Aujourd'hui, le jeune, il commence à bosser à 25-27 ans.
Par rapport à ce que tu dis,
alors, dernier élément, la pénibilité. La pénibilité qui me parle.
Dans la mesure où le contribuable, par l'impôt, accepte de payer le RMI, accepte de donner un minimum, en quelque sorte, à des gens qui sont sans emploi, pourquoi, effectivement, il n'accepterait pas de la même façon à payer, que le contribuable paie, mais d'une façon au moins égale. Non, ça n'existe pas. Non, le minimum vieillesse existe en tant que somme, mais en fin de compte, c'est pris quand même par les cotisations du travail, pour la plupart. Alors qu'en fin de compte, si c'était l'impôt qui garantissait le minimum vieillesse, par exemple, si aujourd'hui le plafond de la sécurité sociale, c'est autour de 1 000 euros, 1 100 euros le maximum, s'il y avait le contribuable qui en paye au moins l'équivalent du RMI, le financement actuel par répartition n'aurait plus que la moitié ou les deux tiers à financer par sa réalité.
Et puis si l'État...
Donc il faut accepter l'idée aujourd'hui qu'effectivement, par d'autres formes, comme le disait, moi j'appelle ça par l'impôt, par d'autres formes, de solidarité, à partir de ce moment-là, le financement des retraites.
Non, mais sur le plan des financements, il y a, en gros, pour revenir aux retraites, il y a trois préoccupations essentielles au point de vue équilibre financier d'un pays comme le nôtre. Il y a la situation globale du pays, au point de vue économie, au point de vue social, au point de vue déficit. On pourra l'évoquer après, quand même, en 10 ans, on est passé à peu près de 3 points du produit intérieur brut à 7,5-8. Peut-être que ceux qui sont en charge de la responsabilité du pays feraient bien de se poser des questions, quand même, parce que l'abîme qui a été tracée, elle est quand même de leur responsabilité. Premier point, bon, la situation du pays. Deuxième point, la situation des retraites, c'est important, de même que le problème de l'enfance, c'est important. Enfance et retraite, ce sont deux caractéristiques aussi qui permettent de situer un peu le niveau réel de l'implication d'un pays vers un vrai modernisme. Le troisième élément, c'est tout ce qui a trait à la sécurité sociale, aux couvertures sociales, etc. Bon, on est vraiment dans la panade sur ces trois points. L'histoire de la remise en cause de ces trois données que je viens d'évoquer, ça passe effectivement par une véritable réforme fiscale. Elle est renvoyée depuis pratiquement 50 ans, 60 ans. Chaque année, c'est un peu comme un leurre. Regardez le rôle de l'impôt. Moi, je suis effectivement d'accord avec ce qui vient d'être dit, c'est-à-dire que l'impôt sur le revenu, il a un rôle un peu relativement équitable par rapport à tout ce qui est la ressource d'un individu ou d'un groupe d'individus par rapport à l'effort collectif à assurer. Il y a la CSG qui a été évoquée à un certain moment. Ça ne me gêne pas que le citoyen, il ait à payer un petit peu plus. Si c'est à la sortie, effectivement, que sa contribution supplémentaire, elle vient en complémentarité, elle est aidée par ceux ou les sources financières ou les sources économiques qui peuvent effectivement contribuer à la fois à l'effort national, mais en termes de retraite, en termes d'activité économique et en termes de système éducatif. C'est là où j'évoque la question un peu de maintien effectivement de la répartition, complément avec la finalisation sur l'impôt sur le revenu, mais également le capital et puis le système boursier qui n'est pas taxé. Enfin, on sort d'une grande crise là, financière, sociale. C'est pas les salariés, c'est pas les retraités qui sont à l'origine de cette difficulté.
Vous croyez vraiment qu'on en sort?
Non, enfin, les banques en sont sorties, mais disons que la situation la plus critique, bon, semble-t-il, était bon un peu, elle est un peu derrière, mais la difficulté sociale, elle est loin d'être terminée. Et puis il y a des bulles qui sont toujours en situation de potentialité d'exploser. Quoi.
Alors justement, si l'État n'est pas capable, il semblerait, de répondre à toutes ces difficultés, peut-être les collectivités territoriales pourraient le faire. Alors on va passer maintenant à cette refonte des territoires.
On va y passer.
Nos régions, nos départements tels qu'ils existent, est-ce qu'ils sont pas obsolètes? La fusion des collectivités territoriales, est-ce que c'est une bonne idée? Et puis surtout, quel doit être le rôle d'une collectivité territoriale avec plus ou moins de pouvoir qu'aujourd'hui? Enfin, vous êtes jacobin ou girondin?
Alors, moi je suis pour un État fort, un État républicain qui assure les fondamentaux, mais je suis pour une vraie décentralisation. Celle de 82, grosso modo, dans l'ensemble, elle me paraissait très, elle a été très positive parce qu'elle a rapproché le pouvoir des citoyens, elle a permis effectivement aux collectivités locales et aux élus locaux de pouvoir prendre une initiative un peu d'amener des services aux populations.
Mais elle a provoqué une explosion et, de la fiscalité locale.
Attendez. Et elle avait le grand avantage, comparativement à la réforme Raffarin 2 et à celle qui est, ou l'ensemble des réformes qui s'annoncent actuellement, d'assurer à peu près un équilibre entre transfert de compétences et transfert de moyens. Actuellement, c'est le contraire qui se passe. Si vous prenez le cas du département de l'Hérault, l'État nous doit 240 millions d'euros que nous ne reverrons pas. C'est-à-dire des transferts de compétences sur l'APA, sur l'insertion, sur les handicapés, sur l'enfance,
ça, on va en parler juste
qui n'ont pas été compensés. Ensuite, réforme, oui, il faut une réforme. Alors, je suis pas de ceux qui disent il y a un millefeuille, parce que le millefeuille, l'état des étudiants en France, si chacune est bien dans ses compétences, les citoyens s'y retrouvent.
C'est un très bon gâteau, là.
Mais c'est vrai qu'à un certain moment, il faut donner peut-être améliorer un peu le sens des choses, la lisibilité, la connaissance par les citoyens et l'approche par les citoyens. Donc, il faut des réformes, mais pas la réforme qu'on nous fait actuellement. Juste un exemple pour bien citer le quiproquo actuel. On nous annonçait 4 ou 5 textes de réforme. Je constate qu'on supprime la taxe professionnelle sur le plan financier. On réforme la taxe professionnelle, on la remplace par une commission, une compensation économique territoriale calée sur la valeur ajoutée, mais dont on nous dit un euro égale un euro. Quoi. Il y aura pas de différence. Pour 2010 peut-être, j'attends de voir par la suite par rapport à la situation difficile dans laquelle est à. Premier point. Mais on réforme la taxe professionnelle sans avoir réformé les compétences dévolues aux différentes collectivités dont nous dit on va les réformer. Et j'apprends encore la semaine dernière, débat à l'Assemblée, que finalement le texte sur les compétences, il n'existera plus, puisqu'il sera remplacé par un article. Ça veut dire qu'on a réformé la compensation, la taxe professionnelle, on a créé le conseiller territorial qui va avoir un rôle. Alors, en disant, il y a trop d'élus, on diminue les élus, etc. En fait, on se rend compte que, globalement parlant, ça entraînera également d'autres dépenses, parce que s'il faut, dans les régions où il y aura beaucoup plus de personnes, créer, par exemple, des locaux plus importants pour accueillir une assemblée plus nombreuse, bon, je sais pas où sont les économies. Mais l'essentiel, c'est de dire quoi? C'est de dire que ce conseiller territorial, déjà, il y a eu un flou artistique dans la manière, dans les modalités de sa désignation. Au départ, on nous a parlé d'un scrutin uninominal sur un tour avec 80% résultat direct et 20% à la proportionnelle. Il représentait qui? Il représentait quel territoire, quelle population? C'est vraiment, d'ailleurs, ça a été retoqué. On passe maintenant au scrutin majoritaire uninominal à deux tours. Et
Ce qu'il n'a pas fait pour déplaire au PS.
Non, mais enfin, moi, ce qui m'intéresse, c'est le sens des choses. Il va gérer quoi ?
C'est antidémocratique, quand.
Il va gérer quoi, le conseiller territorial ? Il va un aspect du département actuel, un aspect de la région actuelle. C'est quand même pas forcément des plus adaptés aux priorités qui sont celles de notre pays à l'heure actuelle. Et quand on voit aussi, dans le même temps, et là je reviens sur le subterfuge un peu des réformes, qui essentiellement ont pour masquer quoi ? Le fait que l'État cherche à se refaire à la cerise sur les collectivités locales. Or, c'est les collectivités locales qui représentent 75% de l'investissement dans le pays. C'est pas l'État qui assure l'essentiel de l'investissement. L'État, il doit assurer une fonction régalienne. Je souhaiterais, moi, qu'elle soit encore plus forte, celle qu'il assure. Mais ce sont les collectivités qui sont de plus en plus sollicitées pour financer, par exemple, des TGV, ceci, cela. Donc, c'est normal que les collectivités participent à un effort, à une situation nationale plus difficile actuellement. Mais à condition que ça se fasse dans des conditions d'équité. Or, vouloir les collectivités, entre parenthèses, je précise, locales, décentralisées, elles sont assujetties à un équilibre budgétaire annuel. Or, l'État, lui, fait de la cavalerie depuis des décennies, quoi. Donc, nous demander à nous, responsables de collectivités, quel que soit le bord politique des élus de terrain, de soulager la carence de l'État, quelles que soient ces familles politiques qui l'ont dirigé, hein, je trouve que ça fait un peu gros. Et c'est là où il est important que les citoyens soient bien au courant de ces situations.
Mais en même temps, bon, si on fait plus de décentralisation, est-ce qu'on va pas augmenter encore la féodalisation de notre vie politique, parce que c'est pas nouveau depuis au moins une vingtaine d'années, à propos des présidents de départements, de régions, des maires de grandes villes, on parle de barons locaux, et le terme n'est pas complètement innocent, il y a une véritable féodalisation de la vie politique en France avec ce système de décentralisation. Est-ce que c'est pas risqué, ça aussi, de...
Bon, il y a une part de risque. Alors, le terme baron, vous l'utilisez, c'est normal, c'est repris par la presse, etc. Bon, c'est une manière...
On dit de Chaban, le duc d'Aquitaine, ouais, enfin bon...
C'est une manière de caractériser des personnalités, ou entre guillemets, des grands élus qui ont une charge importante quant à l'évolution qui a caractérisé leur action à la tête des collectivités qu'ils représentent. Enfin, moi, ce que je constate quand même, c'est que depuis 82, la décentralisation, elle a amené quand même beaucoup, beaucoup de choses. Hein. Moi, je vois à mon niveau local, par exemple, l'effort qu'on a fait au niveau des écoles primaires maternelles, c'est la décentralisation qui l'a fait. C'est pas l'État qui m'a créé l'école primaire ou l'école maternelle. Quand je vois l'effort qu'a fait le département au niveau des collèges, c'est tout à fait remarquable. Quand je vois l'effort que fait la région ou que fait l'intercommunalité...
Donc, Vésiné ne fait pas que faire des routes d'arrière-pays.
Il assure son rôle de département, il l'assure très
comme
bien.
Comme je disais, Jean-Geoffrey, j'y ai pas si longtemps.
Ça, ce sont des formules. Mais l'important, c'est la réalité de ce qui se passe derrière. Le département est bien géré, le département a mené beaucoup de services. L'intercommunalité, j'aimerais qu'on en parle aussi, est une solution qu'on ne peut pas brader pour l'avenir. Elle est importantissime dans la réalisation concrète des services aux populations. Si vous prenez le cas des différentes intercommunalités, moi je vous parlerai davantage peut-être celle de l'agglo où j'ai une responsabilité directe, mais il faut voir un peu quand même en 6 ans ce que ça a permis de réaliser comme équipement au service des citoyens. La région, c'est pareil, par l'action qui est menée sur les ports, etc. Donc chacune de ces institutions a un rôle à jouer. Ce qui me voit très inquiet actuellement, c'est que j'ai évoqué après l'aspect financier un peu de l'État qui cherche à se refaire à la cerise sur la collectivité, mais il y a le fait aussi que de plus en plus on va vers des situations où l'État ne joue plus ce rôle de complémentaire des collectivités, c'est-à-dire que les dotations seront de plus en plus normées et la part d'autonomie des collectivités est en train de diminuer. Par exemple, la région ne va plus lever d'impôts de par la réforme qui la taxe d'habitation passera du département à l'intercommunalité. Donc il y a tout un chamboulement alors qu'on nous parle de réforme fiscale, mais on l'attend toujours. C'est l'arlésienne, la réforme fiscale. Alors que la réforme fiscale, elle devrait effectivement s'adosser et accompagner tout ça.
Et si on en vient maintenant alors, au mode de scrutin, à cette réforme du mode de scrutin, que dire de la réforme qui est en cours ? Et Jean-Pierre, vous êtes plutôt pour un scrutin majoritaire à 1, à 2 tours, ou à la proportionnelle, plus ou moins intégrale ? Qu'est-ce qui irait plutôt dans votre sens ?
Donc moi, personnellement, je suis favorable à un système majoritaire à 2 tours, parce que je pense que le deuxième tour, au premier tour, bon, les forces se pèsent, l'électeur dit son sentiment premier sur telle orientation, telle tendance. Et au deuxième tour, on rassemble sur une action beaucoup plus forte, beaucoup plus globalisée, et qui permet effectivement un équilibre. Alors, qu'il y ait une dose de proportionnelle, elle me paraît également très convenable parce que, elle permet d'assurer la diversité, mais la proportionnelle ne doit pas empêcher quand même l'axe fort
de dégager une majorité. Quoi.
Voilà, tout à fait.
Et alors, pour terminer, Martine Aubry a comparé, quoique la comparaison, enfin, bon, c'est presque journalistique, Sarko avec Madoff. Mais moi, je voudrais qu'on revienne là-dessus. Sarkozy, soit il est incompétent, soit c'est un voyou. Quand je dis Sarkozy, c'est pas le président, enfin, monsieur Nicolas Sarkozy, c'est, j'allais dire, l'État. Puisque l'État, vous le disiez, il doit des centaines de milliards aux collectivités territoriales, il doit un argent fabuleux à la Sécu, aux caisses de retraite, bref, l'État est, le moins qu'on puisse dire, un très mauvais payeur. On a vu même au niveau du ministère de la Défense, qui était pratiquement en situation de faillite, qui ne paye plus ses fournisseurs. Bon, il y a un véritable scandale. Alors, l'État, au-delà de Sarkozy, il est incompétent ou voyou?
Alors, s'agissant de l'individu que vous avez nommé,
oublions l'individu. Bon, quoi.
J'enlève le terme voyou par rapport au sens qu'il peut y avoir derrière.
Ah non, au niveau de l'État, sans parler de l'individu.
L'État, alors c'est attention aussi parce que l'État, c'est nous, dans la responsabilité que donne le corps social, le corps électoral, l'État. Donc, à un certain moment, malheureusement, si les citoyens confient une responsabilité publique
à n'importe qui.
À n'importe qui,
ça
fait quand même deux ou trois fois qu'ils ont la responsabilité nationale. Hein. Ils sont au pouvoir depuis 12 ans.
Mais vous allez tenir le même discours pour les Grecs, alors?
Ils sont au pouvoir depuis 12 ans.
Léon Roy, depuis ce matin.
Oui, mais il appartient à chaque...
Vous n'avez qu'à pas voter pour n'importe qui, non?
Non, mais il appartient à chaque peuple aussi d'être au rendez-vous de son dessein, de son avenir. Alors, c'est vrai que c'est là où est important l'élément culturel, l'élément explication, l'élément politique au sens plein, analyser le fond. Dans la société actuelle, ce qu'on constate, c'est que la place ouverte à la façade, l'effet d'artifice, etc., est de plus en plus prégnant. Et derrière ça, le fond a tendance à perdre du terrain. Et moi, il est important que les élus, quels qu'ils soient les élus, ils doivent avoir un rôle de responsabilité, le parler vrai, c'est-à-dire le lien entre le dire et le faire. L'acte est important. Et l'acte, il prolonge une explication, une pédagogie, une présentation d'une politique, d'un intérêt politique. Et actuellement, on a affaire effectivement à un gouvernement qui fait des effets d'annonce. Et le président de la République actuelle est expert dans ce domaine-là. Il a les moyens, c'est un peu le même phénomène que Berlusconi. Hein. Globalement, on peut considérer que les forces financières qui tiennent les médias sont quand même plus ou moins au service de ce pouvoir-là. Et c'est les effets d'entourloupe. Bon, on vous annonce que, comme Chirac à l'époque avait dit, la rupture sociale, il découvrait qu'il pouvait y avoir des problématiques sociales. Bon, Sarkozy joue, surfe en permanence sur ces éléments d'annonce. Voilà.
Alors, avant qu'on passe à notre troisième débat...
Non, mais attends, moi je voudrais quand même poser une question à Jean-Pierre. Qu'est-ce qu'il pense éventuellement de renforcer, justement, par rapport à ce qui vient d'être dit, les pouvoirs de la Cour des comptes? Parce que alors, à l'heure actuelle, c'est le seul élément, y compris de contrôle vraiment de l'action publique. Parce que bon, normalement, le Parlement, c'est aussi son rôle.
Théorique, quoi.
Mais enfin, bon, à côté, la Cour des comptes, c'est l'outil, en quelque sorte, du Parlement. Théorique. Or, théorique. Mais enfin, est-ce qu'il ne faudrait pas faire une réforme? Il ne faudrait pas commencer la réforme par ça et effectivement montrer davantage de rigueur et de pouvoir. Parce que le citoyen qui vote, bon, il vote, mais après, il ne sait pas ce qui se passe. L'élu, même, aujourd'hui, même au Parlement, bon... Je ne sais plus.
Alors, Jean-Pierre, juste une petite réponse et après on passera au troisième débat.
Alors, j'y suis assez favorable. Juste un exemple. Il y a 3, 4 ans ou 5 ans, Seguin était responsable à la Cour des comptes. Il a fait une intervention devant le Congrès des maires à Paris, mettant en évidence le fait que l'État s'arrêtait au milieu du gué par rapport à tout l'impact de la réforme territoriale. Et Seguin avait entièrement raison. C'est-à-dire qu'on a galvaudé la réforme territoriale d'origine qu'avait initié Chevènement et compagnie sur différentes lois. Et la Cour des comptes, effectivement, au-delà du rapport qu'elle fait chaque année, je pense qu'il faudrait que les implications, les directives, les rapports que fait la Cour des comptes aient davantage de prégnance dans le suivi, la gestion, le management, sur un plan plus politique. Ça me paraît évident.
Alors, on va faire une dernière petite pause musicale avec encore un petit coup de Jean Ferrat. à la demande donc de notre invité Jean-Pierre Maure. Et puis alors ensuite, eh bien, on passera à la vie quotidienne, à l'agglo de Montpellier, au temps de la Régence.
Aimer à perdre la raison, aimer à n'en savoir que dire, à n'avoir que toi d'horizon, et ne connaître de saison, que par la douleur du partir, aimer à perdre la raison. Ah, c'est toujours toi que l'on blesse, c'est toujours ton miroir brisé, mon pauvre bonheur, ma faiblesse. Toi qu'on insulte et qu'on délaisse, dans toute chair martyrisée, aimer à perdre la raison, aimer à n'en savoir que dire, à n'avoir que toi d'horizon, et ne connaître de saison que par la douleur du partir, aimer à perdre la raison. La faim, la fatigue et le froid, toutes les misères du monde, c'est par mon amour que j'y crois. En elle je porte ma croix, et de leur nuit, ma nuit se fonde. Aimer à perdre la raison, aimer à n'en savoir que dire, à n'avoir que toi d'horizon, et ne connaître de saison que par la douleur du partir, aimer à perdre la raison.
Retour dans nos studios, et c'est vrai que pendant que passait le petit morceau de Jean Ferrat, on continuait un petit peu la discussion, on parlait de pratiquement situation de banqueroute de la France, mais je pense qu'on fera une émission certainement spéciale là-dessus, puisque la dernière fois où on a été dans un même contexte, c'était en 1787-88, lorsque le roi Louis XVI a été contraint à la réunion des États généraux, ce qui a donné la Révolution française, parce que l'État royal était en situation de banqueroute. Totale de cessation de paiement. Alors on va passer maintenant à notre troisième petit débat sur la vie quotidienne, à l'agglo de Montpellier, au temps de ce que j'appelle moi la régence, puisque Jean-Pierre Moore, ça fait un peu deux fois, il est un petit peu le régent, c'est-à-dire lorsqu'il y a incapacité du chef, il y a quelqu'un qui exerce à sa place, mais à sa place provisoirement, par intérim. Alors, Jean-Pierre Moore, revenons déjà un petit peu sur votre carrière. C'est déjà une longue carrière de maire d'un gros village, on va dire, au fin fond de l'agglo de Montpellier, mais le tout dans la discrétion. Je regarde toujours, quand on a un invité, ce qu'il peut y avoir sur lui sur Internet. Sur Jean-Pierre Moore, à la différence de Michael Delafosse, de Patrick Vignal, de Philippe Sorel... Mais rien, voilà. Pratiquement rien. Ça vous intéresse pas, Internet? Pas de blog vivant? Rien sur Facebook? Vous étiez pas à l'apéro, gérant? C'est pas votre truc, quoi. C'est pas votre génération. Alors, vous êtes quoi, un homme du passé? Ou déjà un sage?
Non, je pense être avant tout, chacun est comme il est d'abord, hein. Chacun agit comme il l'entend. Je pense être surtout un homme d'action, voilà. Donc, qui privilégie, je dirais, le travail qu'il y a à faire, la traduction un peu de l'activité qui doit être celle d'un élu par rapport au mandat qui lui ont été confiés par ses pairs et par la population. Et je pense que, on évoquait la gestion du temps tout à l'heure, les journées, elles ont 24 heures, elles sont déjà très très bien occupées comme ça.
Oui, donc les blogs, Facebook, Twitter et tout ça, c'est pour autre truc.
Ah, je tweete pas, non, mais enfin, je respecte tout ce qui est Facebook, tout ce qui est Internet, il n'y a pas de problème. Hein.
Ah, venons-en à la présidence de l'agglo. Oh, c'est quand même la deuxième fois que vous assurez la présidence, en l'absence donc du président Georges Frêche. La première fois, si ma mémoire est bonne, c'était fin 2004, lorsqu'il avait eu justement quelques petits soucis de santé. Cette fois-ci, là, parce que il vient de se faire réopérer. Régent, c'est quand même pas une fin en soi. À quand la présidence de l'agglo, pour de vrai, pour de vrai?
Alors attendez, tout d'abord, la situation actuelle est quand même différente de celle que vous évoquez, puisque le président est là, bon certes, il a été opéré, il est en phase de rééducation, il va très bien, il fait les affaires, donc j'assure effectivement le lien entre lui et les services, mais c'est le président qui assure le...
Il continue à bosser de sa chambre d'hôpital.
Tout à fait. Et bien sûr, avec davantage d'implications me concernant pour assurer ce relais.
Alors, quand est-ce que vous prenez la présidence pour de vrai,
quoi? Écoutez, pour l'instant, il n'y a pas de problème. Pour l'instant, il y a un président d'agglomération qui est Georges Frêche. Ouais. Donc moi, j'en suis premier vice-président. Ouais. Bon, mais si un jour ça doit se faire, ben, ça se fera. Mais ça sera décidé en fonction d'évolutions qui concernent peut-être aussi la réforme des collectivités territoriales, à commencer par l'intercommunalité. Et puis, dans le temps où le problème se posera, pour l'instant, le sujet n'est pas sur la table.
Oui, mais quelles sont vos relations avec Hélène Mandroux? Parce que vous avez été suppléant d'Hélène Mandroux aux législatives et là, quand même, Frêche Mandroux, c'est quand même pas le grand amour. Vous êtes un peu au milieu.
Non, j'ai de bonnes relations avec Hélène Mandroux. Vous l'avez évoqué, effectivement, j'ai été son suppléant en son temps lors d'une élection législative. Bon, elle est maire de Montpellier, elle est également vice-présidente au niveau de l'agglomération de Montpellier.
Elle est vraiment maire de Montpellier?
Mais c'est sûr, ça? Je crois savoir qu'elle est maire de Montpellier.
Non, sur les papiers, oui, d'accord, mais concrètement.
Ah, bah écoutez, ça.
Parce qu'on entend de partout, aussi bien à gauche, Philippe Sorel nous disait, Patrick Vignal, qu'à droite, elle n'exerce pas, enfin, elle fait de gestion du temps quotidien.
Écoutez, quoi. Moi, j'ai pour principe de ne pas m'immiscer dans la gestion directe de collectivités locales dont je n'ai pas la responsabilité directe. De même que je serais étonné que quelqu'un vienne porter un jugement de valeur s'il ne le connaissait pas sur Colonsec ou autre. Bon. Montpellier, c'est l'affaire des élus montpelliéraine, de la population montpelliéraine, et Montpellier est une des collectivités parmi les 31 de l'agglomération de Montpellier. Donc le vice-président que je suis n'a pas à s'immiscer, comment dire, dans la manière dont fonctionne la gouvernance.
La communauté urbaine, ça reste un objectif?
Je vais peut-être vous surprendre, là, mais enfin, l'objectif, est, on peut l'entendre de différentes manières. L'objectif n'est pas ou communauté urbaine, ou grande agglo, ou métropole. L'objectif, si on parle sur le fond, ce qu'on a fait depuis ce matin, il est, et j'en suis intimement convaincu, par rapport aux questions d'intérêt général, d'intérêt de service public, il est de mettre en place une intercommunalité qui soit à même de relever les défis de demain. Et cette intercommunalité, je suis convaincu également que le territoire actuel, par rapport aux temps qui sont devant nous, aux décennies qui sont devant nous, est insuffisant. Donc il faudra une agglomération de Montpellier plus importante. Sous quelle forme? Grande agglo, enfin agglo, disons, assise sur une assiette foncière plus importante, communauté urbaine, ça m'étonnerait. Métropole, le texte métropole, il a été là aussi beaucoup chamboulé entre le texte initial, puis qui a été vidé de son sens par le Sénat, il y a quelques éléments qui ont été remis, je pense que c'est un texte de milieu de guet, tout à fait provisoire, qui ne répond pas à la mission d'ailleurs de la métropole, alors qu'au départ il avait été prévu que ce soit une collectivité, c'est un établissement public. Bon, donc on reviendra là-dessus. L'objectif, il est effectivement que dans ce territoire, entre Toulouse, Marseille, Lyon et Barcelone, non pas pour se comparer aux quatre territoires que je viens d'évoquer, mais tout simplement pour se dire, par rapport aux grands enjeux qui existent sur cet espace, il faut lui donner toute l'assiette foncière et toute la dynamique, la tonicité souhaitable. Parce qu'actuellement, c'est même plus un problème...
Là, il faut un maire dynamique de la capitale de l'agglo, quoi.
Pas forcément. C'est même plus un problème, je dirais, de national, un problème européen. C'est plutôt un problème, je dirais, de positionnement par rapport aux atouts de ce territoire. J'en prends deux ou trois. Les moyens de transport, les infrastructures routières et ferroviaires, l'histoire campus et technologie. Bon, ce sont des éléments qui... Et puis, on peut ajouter le tourisme, etc. Ce sont des éléments qui font que le Grand Montpellier doit être présent sur la scène et nationale, et européenne et mondiale sur les décennies qui viennent. Et pour ce faire, il faut effectivement lui donner les moyens de le faire, les conditions pour pouvoir répondre aux besoins des populations qui sont actuellement, et dont on sait que sur différents territoires, elles sont en difficulté. Moi, je prends le cas, je vous donne un exemple, puis je viens aux modalités de l'élection. Un exemple sur le logement. Actuellement, il y a deux problèmes majeurs, trois problèmes majeurs. Il y a l'emploi, il y a le logement et il y a le niveau salaire. On n'en a pas parlé, mais il y a un gros problème au niveau des salaires en France. Ça, c'était fondamentalement important, aussi important que ce qu'on a évoqué tout à l'heure. Bon, par rapport à ces trois problématiques, j'avais en prendre une, le logement. Sur l'agglomération de Montpellier, il se construit chaque année 5000 logements par an. Sur les 5000 logements, il se construit à peu près 1300, 1400 logements sociaux. On a créé 4000 logements sociaux par an. Quand on sait que sur les 4 ans. Quand on sait que la 70% du corps social français est éligible au logement social, c'est mesurer l'effort qu'il y a à faire sur cette région, pas uniquement sur l'agglomération de Montpellier. L'agglomération de Montpellier, elle répond à ça. Moi, j'ai inauguré encore samedi matin une opération de logement social. Sur ma commune, on sera à 27% par opération neuve, plus 10 à 15% d'accession sociale. Ça veut dire que globalement, sur ce qu'on va faire sur une commune comme la mienne, et qu'on ambitionne de faire sur l'agglomération de Montpellier, c'est pratiquement 40 à 50% de logements sociaux et d'accession sociale à la propriété. Là, on est dans le tempo, dans l'obligation à laquelle on a répondu en tant qu'élu. Après, le problème, qui est le responsable de ça, c'est même pas en termes de responsable. C'est effectivement une évolution de la démocratie. Je suis pour le respect des communes. Les réformes actuelles, s'il n'y avait pas de réformes, je suis contre les réformes telles qu'on vient de l'évoquer, mais les communes en tant que telles, par rapport à ce qu'elles ont été à l'origine, sont en train d'évoluer. Mais il faut garder les communes sur un plan culturel, sur le plan d'initiative locale, sur un plan de partenaire au sein d'une intercommunalité qui apporte du bas vers le haut une sève qui est importante. C'est le feeling, c'est l'émotion, c'est l'animation d'un territoire de proximité. Mais il faut donner les moyens à une intercommunalité d'être présente. Alors après, on va vers une évolution. Actuellement, le moyen terme, je dirais que ça va être très certainement l'élection fléchée, c'est-à-dire qu'au sein des différentes élections de conseillers municipaux, il y aura des élus qui seront désignés comme si leur majorité municipale passe, ce sont eux qui représenteront l'institution intercommunale à l'agglomération. Mais à terme, il faudra aller vers l'élection au suffrage universel direct. Ça me paraît normal. Vu l'importance des questions qui sont à traiter. Quand vous traitez de l'emploi, de l'économie, quand vous traitez des transports, quand vous traitez de l'environnement, quand vous traitez de l'ensemble de la problématique et du logement,
ça fait quand même...
Oui, la vie quotidienne qui intéresse les gens. À un moment, il faut que ce soit traduit par une confiance ou un rejet de confiance vis-à-vis de l'élu qui se présente, donc suffrage universel.
Il y a une petite chose à propos de l'agglo.
Ça m'intéresse, cette
partie. Et de Montpellier tout particulièrement, très rapidement. Alors, Philippe Sorel s'est porté candidat pour 2014. Ouais. Immédiatement, Patrick Vignal aussi. Le jeune de la fosse du Bois, moi pourquoi pas. Qu'est-ce que vous pensez de cette triple initiative? Est-ce qu'il se peint un peu précipité pour les uns comme pour les autres, ou est-ce qu'au contraire...
Alors, il y a une triple initiative, il y aura peut-être d'autres initiatives. Je suis pas choqué par rapport à ça, sur le fait que des élus qui ont en quelque sorte l'écorce de s'intéresser au bien public, à la chose publique, soit resituent leur engagement pour le temps et prennent rang. Bon, j'aurais tendance plutôt à le prendre comme ça. Il faudrait pas que ça devienne quand même une course à l'échalote où chacun essaie de se marquer et qu'on fasse le sprint final avant la dernière étape.
Est-ce qu'il ressemblerait aux primaires socialistes pour les présidentielles, là?
Il y a un peu de ça, mais le temps passera. C'est 2014,
les élections. Oui, tout à fait. Bon, venons-en au conseil général, au futur conseiller territorial. Est-ce que vous avez l'intention d'être un des futurs conseillers territoriaux?
Écoutez, ça c'est 2014. Pour l'instant, la réforme conseiller territorial, c'est 2014. Pour l'instant, il y a une élection, des élections cantonales normales en 2011, puis il y aura les élections présidentielles. Les élections...
Vous êtes renouvelable ou pas, vous?
Je serai probablement, oui.
Candidat. Non, en 2011, vous allez... Oui, êtes...
Ouais, oui, d'accord. Ouais. Hein. Et je serai candidat à la candidature.
D'accord. D'accord. Bon. Et alors justement, bon, au sein du Conseil général pour l'instant, puisque au moins jusqu'en 2014, il reste en tant que tel. Et à propos de André Vézinet, ça fait un peu fin de règne, non, de Conseil général avec André Vézinet. Alors, tout simplement par l'âge qu'il a. Alors, qui pour lui succéder? Est-ce que vous pensez, parce que à l'aglo, on dira, c'est Jean-Pierre Moore. Parfois, il y en a qui évoquaient encore Éric Mandrou, mais bon, Jean-Pierre Moore. Pour le Conseil général, on évoque souvent, très souvent, Kléber Mesquida, l'ennemi presque intime personnel de Georges Frêche. Comment ça peut le faire, ça? Qui pour succéder?
Bon, on est pas...
Ou alors Jean-Pierre Moore, mais non, Jean-Pierre Moore, il peut pas être patron de l'aglo, patron du Conseil général.
N'exagérons pas le cumul. Non, bon... D'une part, pour l'instant, la question de succession ne se pose pas, telle que vous l'évoquez. Bon, André Vézinet, candidat lui-même, sera candidat sur son canton au niveau de 2011. Donc je ne vois pas ce qui pourrait modifier de manière substantielle la majorité actuelle au travers des... Sans vouloir offenser par avance ce que sera le résultat de 2011, mais globalement, la majorité du département en 2011...
n'aurait pas beaucoup évolué.
N'aurait pas beaucoup évolué. Bon. Ensuite, c'est autre chose. Donc... les choses seront à reconsidérer peut-être probablement en 2014 avec la réforme du conseiller territorial. Mais là,
c'est... Kléber Mesquida, ça ferait pas un bon patron de département?
avec les maires comme Mesquida et quelques...
Justement, un maire d'une petite ville, à l'originaire, André à l'origine Vésiné. De Créissant, maintenant Saint-Pont-de-Tonnières, André... un peu comme Jean-Pierre Moore, un bon patron d'agglo, parce qu'il est d'un petit village, je crois.
André Vésiné travaille très très bien pour le Conseil Général, Kléber Mesquida également, il est effectivement l'élu d'un secteur territorial moins fourni en population, qu'on considère plutôt comme ce qu'on appelle, c'est pas du tout péjoratif, les Piémonts, enfin, ou l'arrière-pays. Jean-Pierre Moore aussi, effectivement, est le maire d'une collectivité du périurbain, c'est pas le meilleur le plus important, mais ce qui est important, c'est...
Oui, mais ce qu'il y a, c'est quand même un gavache, quoi.
Ce qui est important... Mais je suis un peu d'origine gavache, quand même.
Ah, bon. Oh, d'accord.
Ouais, à Véronée et Lozérien.
Ah, oui, voilà, là, oui. Oui, là, d'accord. Là. Donc, là, effectivement, complètement. Alors, pour terminer là-dessus, vous êtes pour ou contre le cumul des mandats? Parce que c'est un gros débat, ça, au PS.
Je suis, effectivement, pour aller dans l'orientation de limiter les mandats. Mais le limiter intégralement, je pense qu'il y aurait un risque par rapport à la bonne représentation de complémentarité d'action. Voilà. L'exagération dans le cumul des mandats, mais c'est le sens des lois qui vont venir. Je pense que moi, je serais plutôt favorable personnellement à deux mandats possibles qui se complètent très bien. Après, bon, et puis surtout que ce soit applicable à toutes les forces politiques, parce que le débat qui est actuellement au niveau du PS, le fait de dire bon, mais on se sacrifie avant, on se suicide ou quoi pour laisser la place aux autres, ça me paraît complètement fou. Donc, il faut effectivement qu'il y ait des règles qui soient bien posées. Ça, c'est un débat intéressant qui complète d'ailleurs, parce qu'on a tendance à dire, à faire penser que l'opinion, elle considère que tous les élus ou sont des véreux ou sont des affreux cumulards. Je pense que l'opinion de proximité. Moi, j'ai jamais été interpellé, par exemple, dans ma commune, sur le fait de savoir si j'étais, qu'on comprenait pas que je sois maire, conseiller général et vice-président de l'agglomération de Montpellier. J'ai de plus en plus conscience, effectivement, qu'à terme, il va falloir réduire ces activités parce que un homme est un homme, une femme est une femme, les journées ont 24 heures, mais il y a des complémentarités assurées. Il faut aller vers une évolution générale, vers limiter le cumul des mandats. Il y a une deuxième évolution qui me paraît importantissime. C'est assurer une vraie parité. Et en ce sens, les réformes actuelles sont un suicide pour la représentation féminine aux prochaines assemblées, conseils territoriales, puisque on réduit, il y a moins de cantons, etc. Et la place des femmes sera naturellement moins évidente que ce qu'on commençait à la faire évoluer.
Mais sinon, si on mettait vraiment toute la place aux femmes, comme vous le disiez tout à l'heure...
Il fallait plus loin.
Non, mais qui va garder les enfants?
Ah oui, mais vous savez qu'il y a de plus en plus d'hommes qui gardent les enfants.
Est-ce que la parité, c'est une bonne loi?
Alors, moi, je ne suis pas pour la parité en termes de quotas, etc. Le problème, c'est que si à un moment, on ne met pas des butoirs ou des exigences, le mouvement naturel ne se fait pas.
Je pense que c'était intéressant pour une amorce, mais je crois qu'il ne faut pas se capricher dessus.
On est d'accord, on est d'accord. Mais
ça, même y compris, je pense que c'est péjoratif pour une femme.
C'est exact. Mais actuellement, regardons le mécanisme... tordu qu'amène la réforme sur les conseillers territoriaux, les femmes vont être ramenées à la portion congrue. Elles perdent 15 points en moyenne. S'il n'y a pas de volontarisme exagéré.
Maintenant, il peut y avoir un volontarisme au sein des partis politiques.
Tout à fait. Alors, allons un tout petit peu plus loin dans le futur. Et puis parlons des législatives, parce que bon, Monsieur Marleix a fait du redécoupage au ciseau.
D'Antelien.
Le véritable oui d'Antelien, quand on voit le redécoupage, c'est d'une précision chirurgicale, c'est le moins qu'on puisse dire. Bon, en ce qui concerne votre circonscription, enfin là vous êtes au niveau de Cournon-Sec, là le redécoupage, il était fait de telle façon qu'au niveau de la 9e qui a été créée, il y a une circonscription faite vraiment pour Arnaud Julien. En l'occurrence, il va y avoir donc bagarre. Alors au niveau de l'UMP, c'est Arnaud Julien qui va se présenter. Au niveau du Parti Socialiste, quand même le plus légitime pour se présenter contre Arnaud Julien puis l'emporter, ce serait pas le maire de Cournon-Sec, autrement dit Jean-Pierre Moore. Alors le matin, en vous ravant, ça vous traite pas un peu dans l'idée là de vous présenter aux législatives de 2012 contre le jeune couillon qui est Arnaud Julien?
Alors il m'arrive de me raser, effectivement, très souvent le matin. Mais indépendamment de ça, bon, effectivement, mais j'ai déjà eu l'occasion de l'annoncer, j'ai l'intention d'être candidat à la candidature sur cette circonscription. Il y en avait deux qui pouvaient me concerner. Il y en a une qui concernait la feu quatrième, sur laquelle j'ai eu l'occasion d'ailleurs de me présenter. On est passé très très près d'une victoire. Je crois que le contexte global à ce moment-là, national, nous a pas permis de l'emporter, mais on était très très près.
C'était en 2002.
2002, avec au deuxième tour quand même 18% ramené de manière très très forte sur la candidature unique que je présentais au deuxième tour, donc ça a fait un très bon résultat. Mais cette quatrième, elle est vidée de pas mal de ces territoires, je dirais, de historiques, c'est-à-dire elle est privée du Termont-Léraud qui passe bascule sur la cinquième, elle est privée du canton de Pignan, donc je peux avoir légitimité à être candidat sur cette quatrième circonscription. La nouvelle qui a été créée, en l'occurrence celle de qui va de Grabel jusqu'à Frontignan, bon, elle est intéressante aussi puisque elle permet, au-delà du débat national que requiert toute circonscription électorale pour les législatives, elle a des thématiques aussi importantes qui sont celles du périurbain, qui sont un peu au cœur de beaucoup d'éléments de réforme qu'on a évoqués ce matin. Donc celle-ci m'intéresse effectivement, pas m'intéresse sur un plan de dire bon je vais y aller, mais intéresse parce qu'il y a un travail important à faire qui me semble être très complémentaire.
Et si on en revient au cumul des mandats, alors du coup Jean-Pierre Moore.
Mais il n'y a pas de problème de cumul des mandats sur moi. À ce moment-là, il y a une application logique, mais on ne peut pas en quelque sorte anticiper
ce scrutin. Et le choix, ce sera lequel ?
Moi, je suis trop respectueux du scrutin. L'année prochaine, il y a des cantonales, ensuite, il y a des présidentielles. Il est évident aussi que les législatives, le résultat, enfin, ou l'impact des législatives sera très lié au résultat des présidentielles. Donc, chaque chose en son temps. Et puis, j'applique. Moi, je suis un légaliste. Je pense l'avoir montré en de nombreuses circonstances. J'appliquerai la législation.
Et puis, avec la réforme de Marleix, en gros, il se dit qu'il faudrait que la gauche fasse 51,5% pour pouvoir avoir la majorité à l'Assemblée nationale.
C'est évident.
Est-ce que la gauche a une chance de gagner en 2012?
La gauche a une chance de gagner à condition d'avoir...
De faire plus de 51,5?
D'avoir la sagesse de bien se rassembler, de bien aller à l'essentiel. Et puis c'est vrai aussi que le découpage qui a été effectué a donné lieu à beaucoup de protestations légitimes de la part de la gauche, parce qu'effectivement il y a beaucoup de tricotage, comme on l'a évoqué tout à l'heure au ciseau, des circonscriptions qui semblent taillées au tenté actuel où nous parlons pour des élus de la majorité nationale. Mais en règle générale aussi, l'histoire a montré qu'elle savait, disons, aller à l'encontre de ces manœuvres-là. Elle remettait le sens, effectivement, des choses à l'endroit. Donc, c'est une fonction de moment, de situation. Vous savez, la situation économique, sociale, elle n'est pas brillante. Le gouvernement, je suis convaincu, moi, en 2012, au niveau national et au niveau législatif, aura beaucoup quand même de difficultés. Si tant est que nous, à gauche, les forces de gauche soient suffisamment rationnelles pour bien montrer un projet de société, bien montrer les raisons qui ont amené un peu à cette déchéance française que nous constatons actuellement, je pense que la droite aura quand même des difficultés.
Et alors pour les présidentielles.
Et tu penses que les primaires, c'est une bonne idée ?
Oui, justement, les présidentielles, plutôt.
Pour préserver l'unité.
Plutôt DSK ou plutôt Martine?
Moi, les primaires, on voit la tendance que ça prend actuellement, la connotation que ça prend. Chacun repart de son côté, etc. Bon, c'est une intention qui m'apparaît intéressante, mais à condition qu'elle soit vraiment entendue au sens de primaire élargie, quoi. Alors, d'un autre côté, ça a l'inconvénient aussi que ça permet à un certain moment de diminuer le fait de pouvoir se compter dans un premier tour, etc. Donc il faut le marier avec une certaine prudence. Pour l'instant, si l'enjeu des présidentielles, ça devait être est-ce qu'il y a une primaire ou pas, on serait complètement à côté de la plaque. Et la droite se régale d'ailleurs de cette situation.
Et puis l'autre part, est-ce que vous craignez pas les Verts, Mélenchon, Bayrou, qui tous les trois draguent sur les mêmes terres électorales que vous ?
Non, je crains pas ça. Ce que je crains, c'est que, enfin, c'est pas une crainte, c'est un souci plutôt, ou un souhait, qu'on soit suffisamment pertinent vis-à-vis de l'opinion, parce que c'est le citoyen qui vote. Une élection présidentielle, une élection législative, comme toute élection, c'est le résultat d'un bulletin de vote. Et un bulletin de vote, il traduit une intention. Cette intention, elle repose sur un constat ou une analyse de la situation qui est celle de chacun de ceux qui vont être bulletin dans l'ordre. Est-ce qu'il va voter d'abord? Ça, c'est important. Éviter le maximum d'absence de participation au scrutin. Donc si on veut que les gens votent, il faut vraiment être explicative, lucide, démonstrative et très concret, très proche des gens. Premier point. Le deuxième, c'est qu'effectivement, on aille à l'essentiel. Et l'essentiel, c'est aller vers une société qui soit de moins en moins libérale, de moins en moins mercantile, avec des effets, disons, où le quotidien des gens n'est pas bradé, mais ce quotidien, il est mis en parallèle très étroit avec des enjeux de société importantissimes. La culture, l'ouverture aux autres, le fait de considérer que la France, même si c'est un petit pays, c'est un pays qui a beaucoup de valeurs historiques à porter. Et ces valeurs, elles ne sont pas désuètes, elles ne sont pas dépassées. C'est le Conseil national de la résistance qu'on évoquait après. Moi, je considère que c'est tout à fait dans l'actualité, à condition de le mettre effectivement à une sauce qui soit adaptée au fait qu'on est au XXe siècle, qu'on n'est pas au milieu du XXe siècle, ça c'est évident. Alors, mais il faut aller vers ça.
Alors Jean-Pierre Moll, on arrive pratiquement là au terme de notre provoscopie. On a parlé de beaucoup de choses. On a parlé des jeunes, on a parlé des anciens, on a parlé des adultes avec la Sécu, on a parlé du présent, du passé, du futur, on a parlé des retraites aussi. Il me semble que vous avez 60 ans. C'est pas l'âge de la retraite qui sonne pour vous ?
Ah mais je l'ai déjà prise, ma retraite professionnelle.
Et politique, non, parce que les Anglais, ouais, les Espagnols, les Allemands, les politiques, lorsqu'ils arrivent à 60 ans, même lorsqu'ils sont au pouvoir, régulièrement, ils vont donner leur démission, disant « bon, ben, ça va, c'est bon, j'ai assez donné », presque à la mode de Jacques Delors, qui lui n'avait pas 60, mais 70, ouais, lorsqu'il s'est agi de se présenter aux élections présidentielles, qui a dit « non, c'est bon, moi, j'ai assez bossé, et maintenant, place aux autres ». Donc 60 ans, c'est pas encore l'âge de la retraite pour Jean-Pierre Moore.
Non, Jean-Pierre Moore, il se sent très jeune, il est passionné, et je pense que si on ramenait, disons, le temps normal de l'intervention d'un élu, si on le calait sur sa date de naissance et sa date présumée d'insuffisance ou d'incapacité à arriver, ça serait quand même dramatique. Je pense que ce qui est important, c'est la conviction que l'on a, la force que l'on a, le sens que on se sent en capacité de donner aux citoyens. Moi, je suis très proche des gens. J'ai passé par exemple un week-end, vous voyez, là où on a deux événements, on a inauguré des logements sociaux, une crèche, vous voyez, la symbole par rapport au thème qu'on a évoqué. De là, on avait une fête citoyenne après avec Gary Ganfoir. Bon, il y a d'autres manifestations qui continuent, des activités de fond telles qu'on les a évoquées. Tout à l'heure, je vais à l'agglo pour régler un certain nombre de problèmes de l'agglo. Donc, je suis très motivé et je me sens très en forme par rapport à ça.
Bon, bah donc là, on arrive vraiment au terme de notre provoscopie. Alors, la semaine prochaine, nous serons avec Jean-Louis Roumégas.
C'est le bulletin médical. De...
La semaine prochaine, nous serons avec Jean-Louis Roumégas, le poulidor, pardon, de la vie politique locale, qui normalement, en ce moment, est en train de rentrer dans l'exécutif de la mairie de Montpellier. Il nous en dira plus, je pense, lundi prochain. Jean-Pierre Moore, un dernier mot. Non,
juste un point peut-être par rapport au morceau de musique qu'on a eu l'entendre, qu'on a écouté pendant cette émission. Il y avait Claude Nougaro et il y avait Jean Ferrat. Bon, vous avez évoqué les deux personnages. Ça m'a paraissé intéressant d'écouter Nougaro par rapport à ce qui représente le personnage en termes de culture, en termes de feeling un peu, où on a évoqué des questions de décentralisation. On est dans le vrai. Les mémés de Toulouse qui aiment la castagne, ça a du sens. Actuellement, certaines trouveraient que c'est peut-être un peu trop viril.
Mais... On se traite de con, quand même.
Voilà, ça me paraît très très important. Les gens ont besoin de ça. Et Ferrat, alors ça c'est un peu un clin d'œil, je dirais, à mon père qui a été un grand résistant. Résistant de l'ombre depuis le premier âge et pas depuis ceux qui ont accouru uniquement au succès quand il était assuré.
Pas ceux de la 25e heure.
Et puis, Ferrat, c'est à la fois le poète, mais c'est aussi le sens des mots. Et puis quand il dit qu'il ne chante pas pour passer le temps, c'est une réalité. Et puis on aurait pu passer des chansons comme La France ou autre, où même si elles ont été écrites et chantées, ouais, il y a très très longtemps, elles sont au cœur de l'actualité. Donc pour moi, c'est un grand grand monsieur.
Divergente, c'est divergent. Merci. Bonne semaine à vous. La semaine prochaine donc avec Jean-Louis Roumégas. Et n'oubliez pas que la révolte n'est pas un droit, mais un devoir. Bonne semaine à vous.
Merci. Bonne semaine.